À la suite de ce que j'ai partagé dimanche, on a fait un survol très rapide de cette partie de la vie de David avant qu'il n'accède à la royauté. Ça comprend les chapitres 16 à 30, à peu près, du premier livre de Samuel. On a vu combien cette période de la vie pour David a été étirante, difficile, pourchassé comme un animal par le roi Saül, mais aussi ayant à trouver un peu comment, quelle ruse l'ennemi tentait de mettre en place pour le priver de rentrer dans les intentions, dans les projets que le Seigneur avait prévus pour lui. On a vu que dans le chapitre 27, avec l'usure du temps et puis au travers de différentes circonstances, alors que David avait bien compris que la royauté allait être pour lui, que c'était les projets, les intentions de l'Éternel, que David en est venu à penser, ou en tout cas à laisser cette pensée mensongère prendre de la place en lui, et à dire, David dit en lui-même, « Un jour, certainement, je périrai par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, et ainsi j'échapperai à sa main. » Ça a été sa propre vision des choses, sa propre analyse de la situation, et finalement de laisser prendre la place cette pensée mensongère. Ça n'était pas la vérité, ça n'était pas ce que l'Éternel avait prévu pour lui. Et puis on a vu les conséquences néfastes, nombreuses, difficiles qui ont écoulé de cela. J'aimerais courtement et humblement voir avec vous ce soir peut-être quelques clés, quelques principes qui nous éviteraient de glisser, de nous écarter de la volonté, des desseins de l'Éternel pour nous, pour notre vie, et en ne pas laisser les pensées mensongères de l'ennemi prendre ainsi de la place et nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont pas le centre de sa volonté, qui nous font rater la cible. Bien sûr, on est à d'autres circonstances, dans un autre temps, dans d'autres circonstances historiques, culturelles, sociales, géographiques et spirituelles, mais on peut tenter de tirer quelques principes qui nous aideraient. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est quelques points que je partage avec vous. Bien sûr, nous sommes au bénéfice de toute la parole de Dieu, de toute la révélation des Écritures que lui n'avait pas. Nous sommes au bénéfice de la parole de Dieu dans notre propre langue. On peut s'en nourrir, différentes versions de la Bible, les commentaires, etc. Nous sommes riches de tout cela. Ouais. Quel privilège. Et d'ailleurs, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'importance. Vous la connaissez, mais peut-être on se la redit ensemble ce soir. L'importance que la parole de Dieu, que la parole de Christ habite, demeure en nous, abondamment, largement, profondément, dans toute sa richesse. C'est la pensée de l'apôtre Paul aux Colossiens, Colossiens 3:16, que la parole de Dieu, la parole de Christ habite, demeure en vous, abondamment, avec toute sa richesse. En quelques passages parallèles, vous connaissez l'exhortation qui a été donnée à Josué qui prenait la relève après la mort de Moïse. Josué, chapitre 1er. Et les versets 7 et suivants. Vous connaissez ces passages-là, mais on se les rappelle. L'Éternel dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 7 et suivant seulement, « Sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends, dans toute la volonté de l'Éternel pour toi. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. » que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On pourrait penser qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, que tu lis, hein, de ce que tu lis et de ton cœur. Mais là, ça va plus loin, c'est-à-dire, non seulement tu le lis, mais tu le dis, tu le proclames, tu le rappelles, tu l'enseignes. Merci pour la prière concernant la responsabilité qui est la nôtre, à propos de partager la parole de Dieu là autour de nous, à nos enfants, en famille, mais aussi entre frères et sœurs, en Christ, de se faire du bien, dans le groupe de maison, la cellule de prière, ou dans le voisinage, etc. Parce que le dire, la dire, la proclamer, ça nous permet aussi de bien la retenir. Je suis enseignant et puis je donne souvent ce conseil à mes élèves pour bien apprendre. Dites aussi, parlez, exprimez les choses parce que vous faites travailler aussi une mémoire à long terme. Hein. Vous sollicitez votre mémoire non seulement visuelle mais aussi auditive. Donc parlez, dites les choses, vous allez solliciter votre mémoire. Mais aussi quand on le dit, quand on le partage, ça nous engage. Parce que quand on est seul dans sa chambre et que l'on lit, bah des fois on peut passer sur certaines choses, plus rapidement sur certaines choses qui peut-être nous bousculent un peu, nous dérangent. Mais si on la partage les uns les autres, qu'on la dit à nos enfants, qu'on se la dit les uns les autres, si je vous la dis devant vous là, ça m'engage, hein. C'est pas à prendre à la légère. C'est comme si l'Éternel disait à Josué, je veux que tu la dises, que tu la lises pour toi-même, mais que tu la dises, que tu la proclames et que tu t'engages ainsi par ce que tu dis à être témoin, un témoin vivant de la mise en pratique de cette parole de l'Éternel. Amen. Hein? Vous connaissez ces autres passages parallèles à propos de l'importance de la parole de Dieu. Le psalmiste dira, je serre ta parole contre mon cœur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle, afin de ne pas rater la cible, afin de ne pas passer à côté de tes souhaits, de tes intentions, de tes projets, de tes recommandations, de tes commandements pour moi, pour nous. Ta parole, psaume 119, c'est une ode, hein, c'est un poème, c'est un honneur qui est donné à toute la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la vie est une succession de décisions, de choix à faire, comme pour David, une décision des choix à faire. Hein. Puissions-nous toujours revenir à cette parole révélée pour nous, pour connaître la volonté de Dieu, qu'elle habite abondamment en nous. Le verset 9 nous dit, « Comment le jeune homme, on pourrait dire la jeune fille, rendra-t-elle son chemin pur ?» Les jeunes hommes, les jeunes filles, c'est plein de projets, plein d'envie, la vie est devant. Alors quel choix faire pour rendre le chemin pur, pour prendre des voies droites, pour bien s'orienter ? En se conduisant d'après ta parole, hein, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est elle qui nourrit notre être intérieur, hein, notre foi, nos pensées. Elle doit impacter nos pensées, nos raisonnements, notre manière de voir les choses, les circonstances. Elle fortifie notre foi. Hein. En profondeur, hein, Colossiens 1,16, que la parole de Christ habite abondamment. En profondeur, on pense à l'épître de Jacques. On va le lire quand même. Jacques, chapitre 1er. Ce sont des passages qui nous sont assez familiers, mais qui nous font du bien de relire. Jacques, chapitre 1er. À partir du verset 22. Mettez la parole en pratique, vivez par elle. Hein. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant, en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est-à-dire, c'est grave, là, on ne sait plus trop où on en est, quoi. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, il y a cette idée de profondeur. La loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de la vérité. Et qui y demeure ? Et qui y demeure ? Non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant à pratique, en faisant son œuvre. Celui-là sera heureux dans sa pratique même. Celui-là sera au centre de la volonté de Dieu. Et puis n'oublions pas cette mise en garde très dure de la part de notre Seigneur en Matthieu 7, si ma mémoire est bonne. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est-à-dire qui professent leur connaissance de Jésus, hein, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté, qui met en pratique, qui fait la volonté de mon Père. La différence entre l'homme qui bâtit sur le sable, qui connaît, qui a entendu les commandements, qui les connaît, mais qui ne vit pas, qui ne les met pas en pratique, et celui qui bâtit sur le roc, qui lui les met en pratique, qui vit par eux. En profondeur. La feuille du calendrier, le lecteur du jour, je ne sais pas quelle est votre habitude par rapport à la lecture de la Bible, le petit commentaire, etc. C'est bien, mais c'est un peu comme un coupe-fin. C'est un peu comme le Twix. En 5 minutes, ça nous donne quelques forces pour les quelques moments du début de la journée. Mais là, il est question de prendre du temps. Il est question d'en faire une priorité. Il est question de se discipliner. Il est question de préserver, de protéger ces moments-là, d'autant plus quand on vit dans un monde où il y a tellement de sollicitations. La radio, la télé, les réseaux sociaux, etc., etc. Tellement de sollicitations, tellement de choses qui pourraient venir voler notre temps d'intimité, hein, de présence intime avec le Seigneur au travers de sa parole. Soyons disciplinés, hein, en cela. Sa parole... Je ne suis pas très vieux, je crois, mais les plus anciens d'entre vous connaissent peut-être ce petit chant de, je crois, Samuel Grandchamp, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 3-4 jours passent comme le temps vole, mais aussi vendredi, samedi. Chaque jour, Seigneur, tu veux me parler. Chaque jour, Seigneur, je veux t'écouter. Quand je chante ça à Isaïe qui a 6 ans le soir, je me dis, oh, la journée, elle est passée vite, et puis tu as raté peut-être quelque chose. Vous voyez, comme ça nous reprend, et c'est bien. Chaque jour, le Seigneur veut nous parler. Tenez un cahier de ce que le Seigneur vous dit, de ce qu'il vous montre, de sa parole. Tenez à jour, écrivez. Écrivez vos prières, écrivez les pensées que le Seigneur vous met à cœur. Soyons sérieux, disciplinés en cela. C'est précieux. C'est précieux. Souvenons-nous que des frères et sœurs en Christ de par le monde seraient prêts à tellement de risques, ou même à mourir, pour recevoir la parole de Dieu dans leur langue. Et nous l'avons. Que nos pensées soient empreintes de sa parole. Vous connaissez l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4 et verset 8 qui suivent. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne d'approbation, hein, tout ça, tous ces filtres-là, hein, qui permettent de faire le tri dans nos pensées, c'est-à-dire que toutes vos pensées soient empreintes de cela, de ce qui est pur, de ce qui est vrai, c'est-à-dire de ce qui est de la vérité, de ce qui est de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur nous dit, de ses promesses, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne à sa gloire, soit l'objet de vos pensées, sous-entendu, et pas le reste. Et pas le reste. Et ainsi, c'est facile avec du recul de se remettre dans la situation de David, mais lorsque David vient à penser « certainement, je vais mourir si ça continue comme ça », le seul moyen d'échapper, c'est d'aller trouver refuge chez les Philistins, comme pour le peuple d'Israël, trouver refuge en Égypte, etc. Est-ce que c'est une pensée vraie, David ? Est-ce que c'est une pensée qui est la vérité ? Non. C'est pas ça que le Seigneur t'a dit. C'est pas ça que l'Éternel a prévu pour toi. Vous voyez combien on doit prendre aussi autorité sur nos pensées pour empêcher que l'ennemi, celui qui insinue le doute, vienne avec ses pensées mensongères. l'importance de la parole de Dieu. Mais pas que là. Hein. C'est une parole, deuxième point, une parole qui est rendue vivante par l'action du Saint-Esprit en nous. Et là, je parle de la prière. Je parle de la prière, surtout la prière d'écoute. Ou la prière où le Seigneur nous modèle, où le Seigneur nous travaille comme le potier qui travaille la terre. C'est-à-dire que lorsqu'on a lu, se dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça? En quoi je la mets en application, en pratique? Seigneur, parle-moi. Ouais. Que ton esprit vienne me montrer quelle application pratique je fais de ce que je viens de lire, de ce passage historique sur Israël, sur David ou autre. Seigneur, qu'est-ce que j'en fais? Je veux comprendre, je veux le mettre en pratique. Que ton esprit vienne me révéler la juste mise en pratique, la bonne interprétation de cette parole que je viens de lire. La connaissance seule, elle enfle. Elle fait gonfler notre tête ou nos chevilles. La connaissance seule, elle enfle. On a besoin de l'humilité. On a besoin d'une simplicité de cœur. À l'image des enfants, c'est l'exemple que prenait Jésus, pour accéder aux choses du royaume de Dieu. Donc bannissons tout orgueil, toute suffisance, toute religiosité. Je partage cette pensée que des fois dans nos milieux, soyons honnêtes, que dans nos milieux chrétiens, peut-être évangéliques, on a peut-être souvent pensé, ou on pense qu'on a tout compris, qu'on a la bonne compréhension, la bonne interprétation des choses, que peut-être on a une pensée un peu jugeante vis-à-vis des autres. Hein. Gardons-nous de cette pensée-là. Restons humbles. Restons dans la dépendance envers le Seigneur. Hein. Dans la piété, dans la simplicité. Je parlais d'une parole qui est agissante, qui est vivante par l'esprit, le fruit de l'esprit, ce que produit l'esprit de Dieu en nous, la patience. On a envie de dire, David, allez, sois encore patient, sois patient, ne pense pas ça, ne laisse pas tes pensées être remplies de ce schéma-là, de ce cours, sois encore patient, que l'esprit vienne renouveler ta patience, ouais. Le fruit de l'esprit, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, la bonté, la paix, alors que lui était tiraillé. Hein. Où est-ce que je vais trouver du secours, de la tranquillité? David, reste en paix, c'est dans le calme, on l'a lu dimanche, c'est dans le calme. La confiance, l'espérance en l'Éternel, que sera ta force, la force de persévérer, la force de ne pas prendre ce genre de décision, la force d'attendre encore le secours de l'Éternel en son temps. Hein. Le fruit de l'Esprit. Je parle de cette transformation de l'Esprit en nous. Vous connaissez l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas aux pensées, aux principes, aux paradigmes, aux modes de raisonnement du monde. Mais laissez-vous transformer, transfigurer, modeler. Ouais. Transformez votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. On a envie de dire à David, non, va dans le secret, va dans l'intimité avec l'Éternel et laisse-le transformer ta manière de voir les choses, tes pensées, pour ne pas croire que tu auras du secours là-bas chez les Philistins. Laissons-nous transformer. Et ça, c'est du temps dans le secret, dans la chambre, dans l'intimité ou dans la cuisine. Mais ce n'est pas à la va-vite. C'est en préservant ces moments-là où le Seigneur nous parle, il impacte nos pensées, il change notre manière de voir les choses. Il va mettre de l'amour pour notre voisin qui nous sort par les oreilles à cause de, je sais pas, sa musique, son manque de, qui ne respecte pas notre droit ou autre, et puis on a envie de le traîner en justice ou autre. Et puis là, dans le secret, le Seigneur va renouveler notre amour pour ne pas commettre d'erreur, d'impair, pour ne pas agir avec un mauvais comportement ou autre, je ne sais pas, ou envers votre chef lunatique ou votre collègue de travail, je ne sais quoi. On a besoin que le Seigneur vienne transformer notre manière de voir les choses, notre manière de voir l'autre. de voir un frère, une sœur en Christ qui, je ne sais pas, par ses prières ou par sa manière de faire les choses. Hein. Je pense aussi au livre des Actes, l'apôtre Paul et les autres disciples qui sont soumis aux directives, aux injonctions de l'Esprit. Et à Philippe, il dira, va sur ce chemin-là. Il n'a pas posé la question, mais ce chemin, il n'y a personne, il n'y a rien, c'est désert. Mais non, il a suivi l'injonction. Il y a 2 jours, j'accompagne mes enfants là, au parc, à côté. Je gare ma voiture et puis je vois 6 jeunes, scooters, tout ça, jeunes. Et je me rappelle que j'ai en haut là, de ma voiture, j'ai des évangiles de Luc, etc. Je dis, ah merci Seigneur. Combien ils sont? 6. Je dis, inspire-moi Seigneur. Inspire-moi. Je sors de la voiture, presque sans un mot, je donne. Et je dis, vous aimez les cadeaux? Ben voilà. Ils étaient surpris. Et puis la discussion s'est enchaînée sur l'école, sur des choses comme ça. Et puis j'ai juste eu l'occasion de leur dire, mais le Seigneur vous aime. Voilà. Puis eux, ils ne comprenaient pas trop. Il y en a un qui était musulman, l'autre catholique. Enfin, je dis, mais peu importe, non, retiens juste que Jésus t'aime. Et j'étais trop content. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. C'est de partager, c'est d'offrir le trésor qui est en nous. Être sensible aux injonctions du Saint-Esprit. Hein, être prêt. Mon 3e point, après la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit qui la rend vivant, agissante. David, il s'est trouvé seul. Il s'est trouvé très seul, je réfléchissais. Je me disais, à ce moment-là, tiens, où était Jonathan, avec lequel il avait conclu ce pacte d'amitié? Est-ce qu'il y aurait eu un moyen peut-être de... Alors que David n'en pouvait plus, il se disait, mais je vais aller chez les Philistins, à un moment donné, qui se disent, mais tiens, je vais aller voir Jonathan, je vais envoyer un de mes gars pour aller le chercher, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est trouvé seul. Seul aussi, alors qu'il y avait... Abiathar, le fils d'Akimélec, c'est-à-dire un des sacrificateurs de la ville de Nob, cette ville qui a été rasée par le roi Saül, parce que justement le sacrificateur avait aidé David. Mais il y avait Abiathar qui s'était échappé. Je me suis dit, pourquoi David n'a pas pris le temps avec Abiathar de lui dire, écoute, j'en peux plus, je suis à bout de force, je crois que la seule manière, c'est que tous on aille trouver refuge chez les Philistins. Mais on ne trouve pas ça. David s'est trouvé seul. Et seul, c'est dangereux. Être seul, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus est mort pour l'Église, qui se traduit ensuite en Église locale. Ça montre tout le prix, tout son amour hein, pour la communion fraternelle, pour l'Église locale. Alors il y a des circonstances, je pense à nos frères et sœurs persécutés qui certains se retrouvent seuls en exil, seuls dans un conteneur, seuls rejetés de leur famille. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui choisissent d'être seuls. Parce que déçus, parce que pour eux, ben, ils savent tout, ils ont tout compris, les autres non. Ou parce que blessés. Mais c'est dangereux, parce que l'ennemi se réjouit. Comme un gnou, comme un de ces animaux qui font partie d'un troupeau, ils se protègent les uns les autres, mais s'il y en a un qui est seul, alors il va être vite la cible, l'objet des attaques des prédateurs. Seul aussi par légèreté. Je ne sais pas ici, mais on en a beaucoup chez nous, parce qu'on a tout. Alors les loisirs, les divertissements, les anniversaires, le ski quand il y a la neige, la sortie quand il fait du soleil, etc. Mais finalement, seul. C'est risqué. C'est risqué. C'est pas la volonté de Dieu pour nous hein, de vivre la communion fraternelle ainsi. Romains 15, 14, l'apôtre Paul dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Et je pourrais multiplier, vous connaissez, ces encouragements avec les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Mais ça nous parle là de l'importance de la communion fraternelle. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous, parce qu'on se fait du bien. Et une communion fraternelle qui devrait nous permettre de dire à un moment donné, dans le groupe de maison ou dans la cellule, je ne connais pas ce que vit l'Église, mais à un moment donné, pour quelqu'un de dire, ben, là, je vous avoue, mes frères et sœurs, je vous avoue, j'ai du mal, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à lire ma Bible, j'ai envie de prendre telle décision. Et les autres de dire, mais non, on est là, on est avec toi, on va prier ensemble, on va t'encourager, je viens te voir, on va lire la parole de Dieu, on va prier, on va marcher ensemble. Une telle communion fraternelle. Évidemment, le culte du dimanche ne peut pas permettre ça. Hein. Le culte du dimanche ne peut pas résumer la vie d'une église locale. Mais c'est aussi dans la semaine, par petits groupes, par binôme ou autre. C'est ça qui fait la vie. Hein. La vie. Mais en tout cas, elle est importante. Pour porter les fardeaux les uns les autres, pour mieux se connaître, pour s'encourager, pour prier, pour exercer les dons spirituels les uns envers les autres, et pour accueillir aussi de nouvelles personnes. Hein. La communion fraternelle, ne pas rester seul. Un point important aussi, j'en ai pas beaucoup, pour lequel David peut-être aurait pu être encouragé, exhorté, et pourtant on lui doit de nombreux psaumes, mais c'est la reconnaissance. La reconnaissance en toutes circonstances, en tout lieu, en toute situation. Paul dira à sa première épître aux Thessaloniciens 5:16, « Soyez toujours joyeux. » On pourrait s'arrêter là, faire l'objet d'une prédication. Ce n'est pas possible. Paul, comment tu peux nous dire ça ? Soyez toujours joyeux. Et même à l'église persécutée, comment toujours joyeux ? En Christ. Dans l'espérance en Christ. Priez sans cesse. Continuellement soyez en contact, en lien par l'action du Saint-Esprit avec le Seigneur. Ça veut dire que des fois, il faut couper la radio, il faut éteindre la télé, il faut s'isoler, il faut prendre du temps, il faut prendre position. Hein. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes circonstances, en toutes situations. Moi, je suis défié par ça. Je suis défié. Mon épouse pourrait vous dire que je ne suis pas toujours très reconnaissant. Mais pourtant, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions l'être en toutes circonstances. Quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, ou quand ça va même mal. Parce que notre reconnaissance ne dépend pas de notre émotion. Le Seigneur nous a fait ainsi. Dépend pas de nos sentiments, mais dépend de sa personne. De sa personne, de sa fidélité, de qui il est. Et lui, il ne change pas. Amen. Colossiens 3:15, soyez reconnaissants. Hébreux 13:15, par lui, en Jésus-Christ, offrons sans cesse, un sacrifice de louange, de reconnaissance, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et c'est important. Et c'est important parce que ce que vous dites, l'ennemi l'entend. Donc si vous dites, j'en ai marre, je vais casser la tête, l'ennemi l'entend. Et il se réjouit. Donc il va rajouter une couche. Il va rajouter une contrariété, une circonstance difficile, adverse. Et il se dit, je vais l'avoir. Je vais la faire craquer. Je vais lui faire prendre telle et telle décision. Alors que si malgré tout, comme David, vous dites, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je ne vois pas encore la délivrance, mais par l'espérance, par la foi, par la confiance que j'ai en toi, Seigneur, je continue à te dire ma louange, ma reconnaissance par la foi, et je m'attends à toi pour le reste. Amen. Amen. Veillez, toujours Hébreux 12:15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume, d'aigreur, de ces mauvaises choses, ne s'enracine, ne se développe, ne pousse des rejetons et n'en infecte aussi d'autres autour de nous. Veillons attentivement, soyons méfiants par rapport à ces choses-là. Ne laissons pas ce genre de racines prendre davantage de profondeur. Ouais. Puis je termine peut-être avec l'exemple suprême de notre Seigneur Jésus. Une soumission volontaire à la volonté du Père. Sa prière au jardin de Gethsémané. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais ce que je vis, tu sais là où j'en suis, mais non pas ma volonté, mais la tienne jusqu'au bout. Alors donne-moi la force, Seigneur, de ne pas passer à côté. Gardons aussi l'exemple suprême de ce que Jésus a enduré, les yeux rivés, fixés sur lui. Je m'arrête là. Que nos vies, en étant ainsi fondées sur ces quelques principes, liste non exhaustive, mais que l'on connaît, mais c'est bien de s'encourager à nouveau les uns les autres, que nos vies soient ainsi, à son honneur, à sa gloire, en portant de nombreux fruits, je le souhaite, de nombreux fruits à sa gloire. Amen. Des fruits qui donnent envie, des fruits comme un feuillage permanent, vert aussi malgré la sécheresse, les épreuves, les difficultés, pour que les gens viennent. Parce que quand il y a un feuillage vert et qu'il fait chaud, les gens viennent. Que les gens viennent vous voir, qu'ils aient envie de goûter au trésor, à la richesse qui est en vous et qui se lit sur votre visage, qui transparaît de votre personne, et que le Christ soit ainsi honoré, réjoui de notre vie, de ce que nous sommes, et de ce que nous faisons pour lui. Amen. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur.